Anne Herla est maître de conférence à l'Université de Liège. Elle enseigne essentiellement les auteurs de la modernité et dans le domaine de la philosophie politique, Hobbes, Spinoza, Rousseau et bien sûr celui qui sert un peu de référence à tous ces auteurs-là, qui est Machiavel.
Bonsoir à tous, merci d'être venus. Donc aujourd'hui, nous allons voir Machiavel, qui est en effet un auteur vraiment incontournable, presque de la pensée politique, qui est cité par toute la postérité. Et pour cause, parce que c'est vraiment un auteur intéressant. Un auteur vraiment donc tout à fait intéressant et qui s'ancre vraiment, tout à fait intéressant aussi pour ce cycle, je crois, parce que c'est vraiment un auteur de la Renaissance. Donc ces dates, c'est 1469-1527, donc vraiment à cheval sur, disons, le 15e et le 16e siècle. Et donc c'est vraiment un auteur de la Renaissance, par bien des aspects qu'on va essayer un peu de voir. C'est vraiment un auteur tourné vers l'Antiquité, en tout cas qui puise son inspiration en grande partie dans l'Antiquité, en particulier Aristote, Xénophon, Polybe, Tite-Live. Voilà des références pour Machiavel. Donc en cela, il est très typique de ce mouvement renaissant, de retour vers l'Antiquité. En même temps, c'est un auteur aussi qui est proche des humanistes du Quattrocento. Je ne vais pas trop développer ça ici, mais je veux dire, c'est un auteur qui est proche d'autres philosophes humanistes. Et en même temps, et c'est là que je voulais en venir, c'est en même temps un auteur qui s'inscrit dans une tradition donc de Renaissance et en même temps qui s'arrache et qui annonce vraiment la modernité par bien des aspects. Et donc, on a là un auteur un peu charnière, si vous voulez, qui est très intéressant parce qu'il est très original. Peut-être c'est déjà rien que ça, je veux dire, c'est vraiment quelqu'un de tout à fait à part, peut-être, un auteur tout à fait unique en son genre, et en même temps, qui a cette espèce de double mouvement d'inscription dans une tradition et de rupture, quoi. Voilà, et qui annonce vraiment ce qui va suivre en pensée politique. Alors c'est aussi un auteur qui est souvent finalement assez peu connu du grand public. Enfin, on connaît son nom. Est-ce qu'on connaît surtout évidemment ce machiavélique machiavélisme? Et je pense que c'est souvent assez péjorativement entendu par le grand public, il me semble, en tout cas souvent. Et on connaît aussi l'idée de la fin justifie les moyens, quoi. C'est ce qu'on a retenu de Machiavel. Je pense que c'est un peu court. Donc on va peut-être voir, à un moment donné, je citerai un passage qui est sûrement le passage qui a servi de base à cette citation très raccourcie et déformante, peut-être un petit peu. D'abord, je vais faire un tout petit point sur la réputation de Machiavel. Qui est donc un auteur qui a une réputation pendant tout un temps et peut-être encore jusqu'à aujourd'hui un peu sulfureuse. Et ça part quand même principalement, disons, de l'ouvrage Le Prince, qu'il a écrit donc en 1513 et qui est certainement l'ouvrage le plus connu et donc qui lui a valu aussi cette réputation. Donc Le Prince est écrit en 1513. Et c'est un ouvrage qui est destiné et dédié à... Au départ, il était destiné à Julien de Médicis, mais qui est mort en 1513. Et finalement, cet ouvrage est dédié à son neveu, Laurent, au neveu donc de Julien de Médicis, Laurent. Ce Laurent, ce n'est pas le Laurent le Magnifique, qui était en fait le grand-père, si je ne me trompe, de Julien de Médicis. Donc ce n'est pas Laurent le Magnifique qui était plutôt, lui, au XVe siècle, mais ici c'est, je pense, son petit-neveu, quelque chose comme ceci. Et donc, peu importe peut-être cette question précise-là, mais disons qu'en tout cas, le Prince est édité pour la première fois de manière posthume, après la mort de Machiavel, en 1532. Et ça va d'abord être vraiment un grand succès de librairie. Les rééditions vont s'accumuler. C'est un livre donc, qui se vend extrêmement bien, qui se lit, mais qui très très vite va susciter des controverses et être mis à l'index en 1564. Et à partir de là, peut-être encore plus, Machiavel va vraiment être diabolisé. Et son nom va être associé à l'immoralité en politique. Et à partir de là, lire Machiavel, d'ailleurs, devient une espèce de transgression. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs qu'il va être extrêmement lu, malgré cela. Ça ne va pas empêcher qu'on le lise. Et on peut voir peut-être deux raisons à cette diabolisation. La première, c'est liée au contexte politico-religieux, qui était vraiment un contexte de guerre de religion, donc au XVIe. Et on peut dire que Machiavel fait un peu l'objet d'une émulation entre catholiques et protestants pour le bannir. Il y a énormément de parutions contre Machiavel à l'époque, donc un peu après, enfin aux alentours du 1570. Et la plus célèbre peut-être de ces parutions, c'est celle d'Innocent Gentillet, qui porte bien son nom dans ce cas-ci, qui était donc un protestant, et qui en 1576 se présente vraiment comme l'anti-Machiavel. Il va vraiment s'attaquer très fort à toutes les thèses machiavéliennes et à tous les machiavélistes, ceux qui soutiennent Machiavel, et donc proposer des thèses anti-machiavéliques. Et le terme même de machiavélique va venir, déjà dès ce moment-là, on va parler de machiavélique puis de machiavélisme, avec un fond très très péjoratif. Et donc cet ouvrage d'Innocent Gentillet a joué un grand rôle, peut-être encore plus que la mise à l'index, dans la diabolisation de Machiavel. En Angleterre, on parlait déjà, même 10 ans avant ce livre d'Innocent Gentillet, on parlait déjà de machiavéliste, comme terme tout à fait péjoratif, et même le mot même, il y avait des jeux de mots un peu autour du nom de Machiavel, donc par exemple le nom Machiavel était transformé en Mac Evil, donc le diable, ou même Nick, donc de Niccolo, du prénom de Machiavel, Nicolas, Nick était devenu un peu un quolibet du diable, ou en tout cas était associé clairement à la notion de diable. Et le reproche donc principal, donc toujours ici dans la première raison de la diabolisation, mais le reproche principal, c'est le reproche simplement d'athéisme, qui était un reproche qu'on avait déjà fait à Erasme, à Rabelais, à d'autres. Et ce qu'on reproche donc à Machiavel, c'est au fond d'oser penser la politique en dehors du théologique. Et de ne considérer finalement la religion comme un simple élément du politique, à intégrer éventuellement dans des stratégies, mais pas comme étant l'espèce de morale suprême qui devrait dicter les fins de la politique. Donc c'est cette espèce d'autonomisation, enfin ça j'y reviendrai, mais de la sphère politique par rapport à la morale, et en particulier la morale chrétienne, et qui perturbe tout à fait les esprits. La primauté donnée à la politique, qui tout à coup prend presque une forme d'autonomie, ça devient on peut penser à la politique sans spécialement tout de suite faire référence à des principes divins ou même moraux, au sens large. Ça, c'est tout à fait nouveau et ça trouble. Donc voilà, la première raison de cette diabolisation, c'est ce rapport à la religion, principalement, cet athéisme qu'on suppose derrière cette pensée. La deuxième raison, qui est peut-être plus profonde encore, que c'est plus profonde que l'athéisme, que l'irreligiosité, ce serait cette forme d'amoralisme qu'on trouve chez Machiavel, qui explique vraiment le rejet de ses contemporains. Cet amoralisme qui n'est pas à confondre avec un immoralisme, ça ne signifie pas que Machiavel prône le mal, contrairement à ce qu'on a peut-être pensé, mais il suffisait déjà, disons, pour être diabolisé, de simplement être dans un point de vue amoral, c'est-à-dire refuser de subordonner le politique à des raisons morales, et donc au fond affirmer qu'il n'y a pas de bien ou de mal en politique, ou en tout cas que ce bien et ce mal dépend des circonstances, peut changer. Il n'y a pas de bien en soi, de mal en soi, il n'y a pas de juste en soi, d'injuste en soi. Et on peut dire qu'ici, Machiavel peut-être entérine quelque chose qui était déjà très présent dans la Renaissance, qui est cette espèce de perte de repère un peu typique du XVIe siècle suite à l'écroulement de la société féodale et aussi évidemment à toutes les découvertes, enfin à toute cette perte de repère qu'on retrouve au XVIe siècle. Et Machiavel, on peut dire qu'il accueille cette crise morale du XVIe siècle sans chercher à l'euphémiser. Il décrit au fond un univers où s'effondre l'assise du juste, de l'injuste, du bien, du mal, et il pense la politique donc en dehors de toute morale. Donc ici, c'est moins l'aspect, si vous voulez, vraiment religieux qui gêne, mais c'est encore plus global que ça. C'est pouvoir voilà, se détacher d'un point de vue moral sur le politique. Et Machiavel va devenir une forme de bouc émissaire, d'une certaine manière, et parce qu'il fait signe vers le fait que l'ordre social est troublé, ce qui est quelque chose qui était déjà là avant Machiavel, qui est propre à cette période de bouleversement qu'est la Renaissance, eh bien, parce qu'il fait signe, parce que peut-être il est trop, au fond, trop de son temps, d'une certaine manière, il y a une volonté de le sacrifier pour restaurer l'ordre. C'est un peu comme si cette diabolisation, symboliquement, elle pouvait servir à réparer. C'est comme une réparation symbolique pour les gens, de dire tous ensemble c'est atroce, c'est affreux ce que Machiavel nous amène. Alors, il y a un contexte quand même historique, peut-être à décrire un peu. Donc, Machiavel, comme je le disais, c'est 1469-1527. Et donc, il est en pleine renaissance, en pleine période de crise. C'est le passage du monde clos à l'univers infini. J'imagine que peut-être ça a été abordé dans d'autres conférences. Cette situation vraiment très large de la Renaissance est un petit peu comme répliquée, enfin se retrouve comme reflétée dans la situation même de l'Italie au XVe, XVIe siècle. C'est-à-dire que la situation politique de l'Italie est très particulière à cette époque. C'est vraiment une poussière de petits États qui sont imbriqués les uns dans les autres et d'où surnagent quand même quatre ou cinq entités un peu plus puissantes, Naples, Milan, Venise, Florence, bien sûr, qui est la ville de Machiavel, Rome. Voilà, 4-5 entités qui surnagent, mais qui se battent entre elles, souvent par mercenaires interposés, donc ils payent des hommes pour se battre, et ces cités sont en guerre. Et ça, c'est une chose, mais en plus de cela, l'Italie est vraiment le champ de bataille des grandes puissances européennes. Donc on a la France, l'Espagne, le Saint-Empire germanique, même la Suisse, je pense, à certains moments, qui toutes se déchirent sur le terrain de l'Italie pour obtenir, pour dominer certaines de ces grandes villes. Donc c'est vraiment une période de guerre. Et ce qui est paradoxal, si vous voulez, c'est que l'Italie est ravagée par les guerres intestines et extérieures, mais au milieu d'un énorme développement économique et artistique. Ça qui est un peu paradoxal, c'est une période extrêmement florissante au niveau artistique, et puis en même temps qui est un ensemble de conflits sans cesse. Et Florence fait elle-même l'objet d'affrontements internes, donc à l'intérieur même de Florence, depuis plus d'un siècle, il y a des affrontements, déjà au Moyen-Âge, entre les Guelfes et les Gibelins, qui sont deux catégories enfin, qui s'opposent à l'intérieur de Florence elle-même. Pour creuser un rien plus Florence, parce que ça c'est des choses sur quoi je ne vais pas spécialement développer, mais disons qu'à Florence, entre 1434 et 1494, c'est vraiment les Médicis, c'est la grande période des Médicis, ce sont les Médicis qui monopolisent vraiment le pouvoir. Donc principalement Côme, est-ce qu'on dit Côme ? Côme, je crois, Laurent le Magnifique, et puis Pierre. Donc c'est les trois, disons vraiment, qui dominent ce Quattrocento. À cette période donc, qui va de plus en plus vers une oppression des Médicis sur le peuple florentin, va suivre une période très très courte, qui est vraiment une forme de république théocratique, on pourrait dire ça, qui est dirigée par le moine dominicain Savonarole, et qui va entraîner vraiment le peuple et créer une espèce de ferveur populaire pendant un temps, mais ça ne va durer que de 1494 à 1498, donc c'est finalement assez court, et Savonarole va être brûlé, parce que peut-être, enfin c'est une version en tout cas, il commet certaines erreurs, il y a une forme de rigorisme, de puritanisme très fort, et la population se lasse assez vite. Et en 1498, donc Savonarole est brûlé sur ordre du pape. Et suit alors à cette période un peu révolutionnaire autour de Savonarole, suit alors la période vraiment de la République laïque, qui est la période pendant laquelle Machiavel va vraiment avoir des fonctions dans l'État. Donc cette république laïque, elle va durer de 1498 à 1512. C'est une courte parenthèse républicaine dans l'histoire de Florence à ce moment-là, avec une république vraiment laïque qui ne dépend plus du tout d'un pouvoir comme celui de Savonarole, d'un pouvoir religieux. Et Machiavel va occuper donc des charges politiques importantes. Il est secrétaire de la seconde chancellerie et secrétaire des 10 de liberté et de paix. Si je me trompe, ce sont donc les affaires étrangères. Et il va être conseiller du Gonfalonier à vie. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne les connais pas assez, mais Pierre Soderini, qui est en 1502, est désigné comme Gonfalonier à vie. Donc au départ, la République se voulait gérer par des équipes de la seigneurie, qui étaient des équipes qui changeaient tous les deux mois. Donc c'est vraiment un système qui se voulait très démocratique, ou en tout cas pouvoir faire participer plus de monde qu'habituellement. Et peut-être pas démocratique, c'est trop dire, mais plus de monde qu'habituellement. Et ici, au bout déjà de quelques années, donc en 1502, après 4 ans, ils se rendent déjà compte qu'au fond, peut-être ce serait plus efficace, où la République pourrait peut-être mieux résister aux révoltes. Il y avait une révolte à Arezzo, c'est la fameuse révolte d'Arezzo. Et donc suite à ça, il y a un Gonfalonier à vie qui est nommé, qui est Pierre Soderini. Et Machiavel est très proche de Soderini, il va conseiller beaucoup de choses à Soderini, et va d'ailleurs être suivi en partie et en même temps pas toujours. Et alors en 1512, il y a l'invasion des Espagnols, et à ce moment-là, donc la République, qui peut-être n'était déjà plus si forte, va tout à fait craquer, et là les Médicis vont en profiter pour revenir à l'avant-plan. Et c'est donc Julien et puis tout de suite après Laurent de Médicis qui vont en profiter pour reconquérir Florence et réinstaurer une aristocratie. Et à ce moment-là, en 1512, Machiavel est démis de ses fonctions. Et puis en 1513, il est carrément accusé de complot. Il est emprisonné, torturé. Et faute de preuves, il est finalement amnistié par Léon X, qui est un Médicis. Et donc, il est amnistié, mais il est condamné à l'exil. Et donc, c'est à ce moment-là, en 1513, qu'il va se réfugier avec sa femme, ses enfants, à Sant'Andrea in Percussina, où il va vraiment écrire son œuvre, en fait. Et les titres vraiment les plus connus sont, je vais en parler un petit peu, le discours sur la première décade de Tite-Live, qui est donc un commentaire d'un ouvrage de Tite-Live, sur l'histoire de la République romaine. Il va écrire évidemment Le Prince, c'est du Prince que je vais parler un peu plus, et puis également une histoire de Florence, L'art de la guerre, qui est également un ouvrage très célèbre de Machiavel, et puis sinon énormément de choses, quoi, du théâtre, de la poésie, une biographie, des lettres aussi qui sont très amusantes. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de lire les lettres à Vettori, c'est intéressant et c'est amusant. Et alors en 1527, eh bien, il meurt d'une maladie foudroyante. Et donc, ce n'est qu'après que ses ouvrages, en tout cas les deux principaux dont je vais vous parler, seront publiés. Le discours sur la première décade de Tite-Live en 1531 et puis Le Prince en 1532. Donc, en 1513, donc, Machiavel, qui est donc un haut fonctionnaire d'une république qui a échoué, va se tourner vers l'histoire d'une république qui a réussi de façon éclatante, c'est la République romaine. Et donc, il va faire ça sous forme de réflexion, qu'il appelle les discours, mais donc les discours sur la première décade de Tite-Live. Qui sont donc une série de réflexions où Machiavel va essayer d'analyser les institutions romaines et les mécanismes par où ces institutions ont procuré la durée vraiment et la grandeur de Rome. Donc il essaie de comprendre comment est-ce que ça fonctionnait pour qu'il y ait, en tout cas pendant tout un temps, une république qui fonctionne bien. Il va aussi examiner les actions des grands hommes, les mœurs, les mentalités, les croyances, etc., des citoyens. Donc il y a tout un intérêt pour les Romains. On peut dire qu'il entreprend une sorte de cours de politique à l'usage des futurs dirigeants républicains. Donc il espère encore peut-être qu'il y aura une république en son temps et qu'on pourrait s'inspirer de ce qu'ont fait les Romains. Donc Machiavel est, en tout cas quand on lit les discours, on peut se dire que Machiavel est vraiment un républicain par beaucoup d'aspects. Il est par exemple fasciné par les conflits sociaux dans la dynamique politique. Et il ne condamne pas du tout les conflits. Au contraire, ça l'intéresse, c'est ce qui fait la vie d'une société. Et donc cette insistance sur le conflit social est importante. Et il montre justement comment cette conflictualité a permis ce qu'il appelle le vivere libero, donc le vivre libre, qui serait donc une forme de liberté citoyenne, de liberté civique très, très active, une forme de liberté qui n'est pas juste avoir chacun le droit de faire ce qu'on veut, mais une forme vraiment d'activité dans la cité. Et donc ce qui l'intéresse dans cette première décade de Tite Live, c'est tout ça. Et donc il y a une forme d'humanisme civique chez Machiavel. On peut parler d'humanisme civique, en tout cas pour ce qui est de cet ouvrage-là. Mais alors on peut se demander, tiens, pourquoi est-ce qu'un républicain, en tout cas apparemment, si on lit ce texte-là, écrit Le Prince, qui est quand même un ouvrage qui ne parle que de monarchie. Eh bien, en fait, si on regarde bien les discours, c'est aussi dans les discours qu'on va trouver l'idée que pour fonder une république, donc le moment de la fondation, pour fonder une république ou pour réformer une politique, il faut un homme seul. Ça revient souvent, cette expression da solo, donc vraiment, voilà. Donc pour fonder ou réformer, il faut un homme seul. Et une seconde idée qu'on trouve aussi, et les deux sont importantes pour comprendre pourquoi il va écrire Le Prince, la seconde idée c'est, là je le cite dans les discours 1, le chapitre 12, « Aucun pays ne fut jamais uni ou heureux s'il n'en vient à obéir tout entier à une république ou à un prince. » L'idée ici c'est simplement l'idée de l'unification, de l'unité. Et on va voir que pour Machiavel c'est vraiment quelque chose d'essentiel, c'est que ce qui manque en Italie c'est l'unification de l'État, c'est un État forts qui réunissent les différentes puissances qui étaient là en poussière. Mais donc il y a ces deux idées, à la fois d'une unification et de l'idée que pour refonder, pour réformer un État très corrompu, eh bien, il faut quelqu'un, un homme seul. Et donc si Machiavel va s'interrompre dans l'écriture des discours, parce que c'est ça qu'il fait, pour écrire le petit opuscule qui s'appelle « Le Prince », eh bien, c'est peut-être pour deux raisons. D'abord, il pense qu'il faut unifier l'Italie. Et l'ultime chapitre du Prince, qui explique vraiment ça de manière presque emphatique, cette idée qu'il faut réunifier l'Italie, ça oriente tout le texte. Donc, c'est la première raison. Et ensuite, il pense que cette réunification, justement, donc, nécessite un fondateur d'État. Or, celui-ci ne peut être qu'un prince. D'abord, je viens de dire parce que tout fondateur est un homme seul, mais ensuite parce que, et ça c'est une deuxième idée importante de Machiavel, parce que pour lui, Naples, Rome, la Romagne, la Lombardie sont remplies de seigneurs féodaux ne sont donc pas du tout accoutumés à vivre de manière libre. Et ça c'est une idée très importante chez Machiavel, c'est qu'au fond, pour décider de la manière dont on intervient pour réformer une communauté ou une cité, eh bien, il faut tenir compte de la matière. Et ce qu'il appelle la matière, ce sont toutes les relations sociales qui sont dans cette société-là et qui, dans ce cas-ci, d'après lui, donc les mœurs aussi des citoyens, leur mentalité. Et pour lui, c'est quand on est trop corrompu, c'est-à-dire souvent quand les riches ont ponctionné les pauvres énormément, ont installé une oppression très très forte, etc., eh bien là où le peuple n'est plus du tout habitué à vivre de manière libre, il faut totalement réformer les choses, et à nouveau par l'action d'un seul homme. Ce n'est pas possible d'installer une république libre tout de suite. Il faut d'abord un acte de réforme. Donc on comprend ce qui peut concilier l'amour de la liberté qu'on va trouver dans les discours et la technique de la domination qu'on peut trouver dans Le Prince, ce qui peut réconcilier aussi l'éloge des bonnes lois, l'apologie Donc ça, c'est l'éloge des bonnes lois, c'est dans les discours. Et puis l'apologie de la violence qu'on va trouver dans... Enfin, l'apologie, en tout cas, la défense d'une certaine violence dans certains cas, ou de la ruse, etc. Eh bien, ce qui relie ces deux points de vue, c'est le problème de la corruption. C'est ça qui assure... Enfin, on peut dire en tout cas que c'est une des choses qui assure le lien entre les deux livres. C'est justement le problème de la corruption. Dans les États qui sont corrompus, donc ceux où la cupidité, l'ambition, les luttes de factions ont étouffé justement toute liberté et toute vertu civique, toute envie même de participer à quoi que ce soit, eh bien, dans ce cas-là, là je cite Machiavel, « les moyens ordinaires ne suffisent pas, il faut recourir à des voies extraordinaires, à la violence, aux armes, pour les réformer. » Donc. Et dans les discours, Machiavel va refuser de traiter de ce sujet-là, dont il a mieux parlé ailleurs. Il dira ça dans les discours. Donc on peut finalement, en bref, comprendre le prince comme une espèce d'annexe des discours qui serait traitée à part. Et de quoi est-ce que ça parle précisément ? Eh bien, c'est la théorie des voies extraordinaires qui permettent de restaurer un vivre libre. Donc au fond, ce ne serait pas nécessairement antagoniste, ce serait simplement selon que la situation l'exige, il faudrait plus ou moins tel ou tel type d'action politique. Et ici, l'Italie, d'après Machiavel, aurait besoin d'un homme libre, un homme seul, qui, un prince qui impose une forme de réforme totale. Donc le pouvoir du prince machiavélien ne marque pas le stade ultime d'une décadence, comme un simple tyran, hein. C'est l'idée de Platon du tyran, ce serait la décadence ou la déchéance d'autres systèmes qui mèneraient à un prince tyran. Ce n'est pas du tout ça ici. Donc loin d'achever justement un processus de décomposition politique, eh bien le prince, il recrée les conditions de la vie libre. En tout cas, il est là pour ça. En tout cas, on peut lire comme ça ce que souhaite Machiavel à travers l'opuscule Le Prince. Donc, je vais rentrer un petit peu plus dans l'ouvrage même du prince. Il y a quatre grandes parties, on peut dire. La première, du chapitre 1 à 11, Machiavel va traiter des différentes sortes de monarchies, et chaque fois, il va essayer de voir comment est-ce qu'on les acquiert et comment est-ce qu'on les conserve. Je vais revenir là-dessus juste après. En tout cas, comment est-ce qu'on les gouverne et comment est-ce qu'on les conserve. Puis, dans les chapitres 12 à 14, c'est plus des questions militaires, donc c'est vraiment des questions d'ordre, quel type d'armes faut-il ? Alors, de 15 à 23, là, on est vraiment dans le thème du miroir. Je vais y revenir juste après, mais le miroir politique, qui est vraiment un genre littéraire tout à fait propre à la Renaissance, mais je vais y revenir juste après. Donc, le thème de 15 à 23, c'est les liens, les rapports que doit avoir Machiavel avec ses sujets, avec ses alliés. Donc, pas Machiavel, pardon, le prince, oui, le prince, bien sûr. Donc, comment le prince doit-il agir avec les alliés, les amis ? Et puis, enfin, de 24 à 26, en trois points qui sont articulés, il y a l'idée de pourquoi est-ce que les princes d'Italie ont perdu leurs États, donc s'interroger sur l'échec de l'Italie. Ensuite, sur le rôle de la fortune dans les affaires humaines, la fortune, c'est-à-dire le hasard, le cours des choses. Et ça, justement, Machiavel va essayer, c'est un thème tout à fait bateau, entre guillemets, de l'époque, et il va essayer peut-être de donner un avis un peu plus original là-dessus. Et puis enfin, le dernier chapitre, c'est vraiment cette espèce de grand cri de Machiavel pour dire il faut absolument réunifier l'Italie, c'est le moment, la matière est bonne, non pas parce qu'on serait libre, mais parce que le peuple serait libre, loin de là, donc, hein, puisqu'il faut un prince parce qu'il n'est pas libre. Mais il dit le peuple n'en peut plus, quoi, de cette situation de guerre, etc. Donc c'est le moment de venir avec quelque chose de... avec une réforme, avec une idée d'unification. Donc ce qui est intéressant, c'est que Machiavel, en écrivant Le Prince, rentre totalement dans une tradition qui est celle des miroirs du prince, ou des miroirs politiques, en tout cas des miroirs du prince, qui est un genre littéraire dont on peut dater le départ à Saint Thomas d'Aquin, mais qui a vraiment, pendant tout le Moyen Âge, c'est très courant d'écrire un petit texte qui s'appelle Le Prince. Quoi. Il y a plusieurs livres qui portent ce nom-là ou presque, et qui consiste donc à conseiller au prince une série de comportements, etc. Alors, Le Prince de Machiavel formellement ressemble à ça, et il aborde des questions qui sont proches. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il en renouvelle tout à fait le contenu. Donc, je ne vais pas développer ça, mais les auteurs avant Machiavel, qui sont les humanistes du Quattrocento, qui ont écrit des Miroirs du Prince, quelques noms, c'est par exemple Pontano, Carafa ou Patrizzi, pour ne citer qu'eux, ces auteurs partageaient certains points de vue avec Machiavel, entre autres l'importance par exemple de l'éducation des mœurs, de l'éducation du peuple. Il y aurait peut-être d'autres points, puis écrivaient donc des Miroirs du Prince. Mais les grosses différences avec Machiavel, c'est qu'en général c'était des monarchistes, alors que Machiavel n'est peut-être pas purement et simplement un monarchiste en tout cas. Eux l'étaient, en règle générale en tout cas pour la plupart. Ce qu'il recherchait comme but politique, c'était la paix et la sécurité, avant tout peut-être celle du prince d'ailleurs, mais enfin, c'était l'objectif. Alors que chez Machiavel, l'objectif va être, comme on vient déjà de le voir, en bout de compte, plutôt une forme de vivre libre ou de liberté au sens fort. Et enfin, surtout, et c'est surtout là-dessus que je vais insister, ce qui était très fréquent encore à l'époque du Quattrocento et des humanistes italiens, qui écrivait pour le prince, c'était de défendre des valeurs morales très fortes, quoi, issues aussi bien de Platon, des valeurs platoniciennes, que des valeurs chrétiennes. Et donc l'idée que ça devait rester moral et l'emprise de la morale, mais c'est légitimé par une morale, quoi. Voilà, il y avait vraiment cette idée-là. Et ça, Machiavel va donc bouleverser un peu ses règles traditionnelles. Donc, je vais prendre les quatre parties, en même temps je vais surtout développer celle où il s'agit de voir comment le prince doit se comporter. Mais sur le premier point, qui est un peu la typologie des monarchies, donc Machiavel s'interroge sur quel type de monarchie existe. D'abord juste un point, c'est que, comme le nom l'indique, dans Le Prince, il va parler des monarchies. Dans les discours, il va parler de la République romaine, mais la question qu'il occupe, c'est qu'est-ce que c'est une République et un vivre libre. Et donc ça, c'est les deux choses qui intéressent Machiavel. Ce qui ne l'intéresse pas, c'est les aristocraties, apparemment. En tout cas, on peut se dire qu'il ne développe pas ces questions-là. Dans Le Prince, par exemple, il y a un tout petit chapitre sur les aristocraties ecclésiastique. Enfin, il y a un tout petit point quand même qui traite de ça, mais on sent bien que pour lui, c'est le degré zéro du politique. Ça ne l'intéresse pas, au fond. Ce qui l'intéresse, c'est république ou moment de réforme par un seul. Et donc, dans le chapitre 1, Machiavel se demande combien de sortes de monarchies il y a, donc la question de la typologie, quelle sorte de monarchie il existe, et comment elle s'acquiert. Ce qu'il va dire, donc, il y a quatre façons, dans sa typologie, il y a quatre points, si vous voulez. Il y a d'abord la forme, mais là on va voir que voilà, c'est monarchie ou république, donc là, au niveau de la forme, on sait qu'on traite ici de la monarchie, donc la république va être mise de côté tout de suite. Le deuxième point, c'est l'origine, c'est-à-dire est-ce que cette monarchie est héréditaire, donc est-ce que le prince l'hérite tout simemps de son père, ou de sa famille, enfin, si c'est un pouvoir hérité, ou bien est-ce que ce sont des monarchies nouvelles. Alors, Machiavel à nouveau fait un peu un choix, et ce qui va l'intéresser dans l'opuscule Le Prince, c'est de parler des monarchies nouvelles. Puis, troisième point, c'est, troisième toujours sous-point, pour diviser les différentes monarchies, c'est quel type de territoire est-ce qu'on acquiert, quel type de peuple est sur ce territoire. Donc là, c'est est-ce que les gens sont habitués à être libres, ou bien est-ce qu'ils sont habitués à vivre sous un prince ? Et enfin, le quatrième point, c'est l'idée des moyens d'acquisition. Est-ce que cette monarchie est acquise avec les armes d'autrui ? Les armes d'autrui, c'est-à-dire par exemple les Français, qui seraient là pour leurs propres intérêts, bien sûr, et qui aideraient à conquérir une terre, ou bien est-ce que ce sont avec les armes propres? Et question qui va avec, toujours sur les moyens d'acquérir, est-ce que c'est par la fortune, donc sorte de hasard, circonstance, ça s'est bien mis, ou est-ce que c'est par le talent propre, etc. Donc, en fait, ce qui va intéresser Machiavel et ce qui va progressivement analyser plus davantage, ce sont les monarchies nouvelles, qui ne sont donc pas héritées, et après il va voir si elles s'appliquent plutôt à des peuples libres ou à des peuples habitués à vivre sous un prince, etc. Donc c'est sa manière, si vous voulez, après tous les chapitres vont détailler chaque situation que je viens plus ou moins de définir, mais l'idée c'est que sa typologie au fond, elle est très originale, parce que ce n'est pas du tout la typologie classique à laquelle on s'attend. La typologie classique, en fait, c'est d'opposer la monarchie à la tyrannie, l'aristocratie à l'oligarchie, c'est Aristote, hein, ça, la république à la démocratie. Et en gros, on oppose ce qui est sain à ce qui est corrompu. Ça, c'est l'idée classique d'une typologie. Et Machiavel est tout à fait en rupture avec cette typologie classique, puisqu'il s'intéresse au comment de l'acquisition. Donc, comment est-ce qu'on a acquis par hérédité? Ou bien alors, et c'est plutôt ça qui l'intéresse, par conquête, par ruse, par révolution. Donc, il va s'intéresser aux principautés nouvelles, enfin, aux nouvelles monarchies, c'est-à-dire éventuellement aux monarchies acquises par la violence, c'est souvent le cas. Et on peut dire que donc c'est déjà une originalité de Machiavel, c'est qu'il se fixe sur les moments d'instabilité dans l'histoire. Ce qui l'intéresse, c'est les moments où un régime bascule, un moment où un État en annexe un autre, par exemple. Enfin, tous ces moments de basculement de l'histoire. On peut dire que Machiavel se veut un peu le théoricien du surgissement de l'histoire, de la contingence. C'est pas le théoricien des formes de la société. Donc Machiavel ne passe pas son temps à nous dire voilà, en droit, dans l'idéal, comment on peut diviser les sociétés. Ce qui l'intéresse, c'est d'aller y voir, dans des exemples précis, d'ailleurs il va pas cesser d'analyser des cas précis, et donc c'est d'aller voir vraiment des choses même extrêmement contingentes, c'est-à-dire extrêmement liées aux circonstances historiques très très précises. Donc c'est pas du tout, c'est pas vraiment un théoricien, c'est plus... un homme d'action, c'est sûr, et puis quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire, vraiment. Donc la question n'est pas qu'est-ce que bien gouverner, à nouveau là c'est le retrait par rapport aux questions morales, c'est pas qu'est-ce que bien gouverner, c'est qu'est-ce que c'est gouverner, comment ça marche gouverner. Donc il va sélectionner les monarchies nouvelles et examiner chaque cas de figure, et ça c'est les chapitres 2 à 11. Je vais passer là-dessus, parce que il faut aller peut-être y voir éventuellement si ça vous intéresse, mais voilà, je ne vais pas trop développer. La deuxième partie, c'est, enfin, dans le découpage que je fais ici, hein, ce n'est pas des parties dans le livre, c'est les armes. Et là, on peut dire que Machiavel va donner des conseils plus généraux qui sont valables pour tout type de prince. Donc, pour lui, c'est extrêmement important, les armes. C'est quelque chose à quoi il faut penser en premier, quasi. Voilà, ça vient d'ailleurs dans l'ordre très très vite. C'est, voilà, il faut penser à cette donnée extrêmement essentielle de comment est-ce qu'on utilise les armes. D'après lui, il y a deux fondements, d'ailleurs, à une monarchie, c'est les lois et les armes. Mais là, je le cite, il dit « Là où il y a de bonnes armes, il y a nécessairement de bonnes lois ». Bon, il ne faut peut-être pas trop le retirer de son contexte et aller peut-être y voir, mais en tout cas, il y a cette idée que les armes sont vraiment une base extrêmement importante. Et tout ce que va dire Machiavel principalement autour de ça, c'est qu'il existe donc des armes propres, c'est les armes, les armées qui sont celles des citoyens eux-mêmes, des forces propres à l'État, ou alors il y a les armes auxiliaires qui sont celles justement d'États comme la France, l'Espagne qui seraient des auxiliaires pendant un temps et puis qui peuvent se retirer d'ailleurs. Et puis il y a les mercenaires. Et ça c'est vraiment ce qui était le plus connu au fait à l'époque et qui se faisait le plus souvent, c'était d'avoir recours à des hommes qu'on payait et qui au fond n'avaient pas tellement intérêt à ce que la guerre se termine, peut-être même au contraire puisque c'était leur gagne-pain. Et Machiavel va vraiment insister énormément là-dessus. Il faut arrêter les armées de mercenaires. Il faut, pour une monarchie nouvelle en tout cas, l'idéal, ce sont d'avoir des armes propre, c'est-à-dire de retrouver, aller rechercher chez les citoyens même cette espèce d'énergie guerrière et ce patriotisme, ce goût de la nation pour aller au combat. Les troupes propres, c'est donc la solution la plus sage pour Machiavel. Et je résume assez fort, hein. Excusez-moi si c'est peut-être un peu rapide, mais un dernier conseil de Machiavel par rapport à la guerre, c'est le fait que le prince doit s'exercer à la guerre constamment, y compris en temps de paix. Donc il faut s'exercer à la guerre en temps de paix, physiquement, donc connaître son pays, s'exercer physiquement, aller à la chasse, enfin l'entraînement physique, etc., mais aussi mentalement. Et donc, dans l'idée de s'exercer mentalement à la guerre, il y a l'idée de se cultiver, de lire des auteurs. Bien sûr, Machiavel pense certainement à son ouvrage, d'étudier les grands exemples de l'histoire, etc. Et donc, son idée, c'est que ça permettra de résister dans l'adversité, d'être plus fort au moment où il faudra vraiment se battre. Donc le prince, pour Machiavel, c'est avant tout, on peut dire, un prince guerrier, et même en temps de paix. Alors, ce qui peut nous intéresser peut-être un peu plus particulièrement ici, c'est la relation, c'est la troisième partie, c'est la relation du prince à ses sujets et à ses alliés. Et là, le prince va devoir être particulièrement habile. Là, c'est les chapitres 15 à 23. Alors là, on est vraiment dans un thème classique des miroirs du prince. C'est donc quelle vertu, enfin, ça semble se poser simplement comme ça, quelle vertu doit-il avoir ? Il y a, avant de rentrer vraiment dans les questions précises, il y a une petite entrée en matière de Machiavel. Avant de parler d'entrer en matière de Machiavel, je vais d'abord donner la mienne. C'est comment le prince doit gouverner donc ses sujets et se montrer à ses sujets, à ses alliés. C'est une question qui est donc tout à fait classique, mais c'est la méthode qui va être nouvelle, puisque justement Machiavel ne va plus faire référence à une morale a priori, une série de valeurs qui seraient inscrites à l'avance. Pour lui, ça, faire référence à des valeurs inscrites par avance, hein, il faudrait être clément, être miséricordieux, être patient, enfin, des choses comme ça. Pour Machiavel, ça relève de l'imagination. Or, lui, ce qu'il veut faire, c'est précisément pas être dans l'imagination ou dans l'idéal, hein, comme Platon était, c'est un peu Platon ici qui est en ligne de mire, non pas être dans une forme d'idéalisation, mais vraiment dans un réalisme assez cru parfois, qui est ce qu'il appelle se conformer à la vérité effective des choses. C'est une expression qui revient, cette vérité effective des choses. C'est donc être au contact vraiment du réel et pas rêver sur ce qui serait bien, voilà comment le prince devrait être. Donc c'est un peu une opposition entre le devoir-être, qui serait un peu abstrait, et quelque chose de beaucoup plus effectif. Et quelle est cette vérité de la chose ? Enfin, quelle est cette vérité de la chose à laquelle il faut se conformer. Pour Machiavel, une partie en tout cas de cette vérité de la chose, c'est l'idée qu'on vit dans un monde d'opinion. Et dans ce monde, donc la foule, les gens, nous, enfin tout le monde, Machiavel aussi, tout le monde, on vit dans une série d'opinions avec toutes sortes d'avis sur ce que l'autre, le prince en particulier ici, doit paraître pour nous plaire, pour nous convenir. Et donc, pour recevoir des blâmes ou des louanges, eh bien on sait un peu voilà les qualités qu'il faut avoir ou pas dans ce monde d'opinion. Enfin, en tout cas, il n'y a pas peut-être des qualités précises, mais disons que ça tourne autour de, par exemple, être libéral, donc par rapport à l'argent ici, plutôt, hein, de distribuer son argent, ou bien être radin, être généreux ou être plutôt rapace, être cruel ou faire preuve de pitié, être efféminé ou plutôt... viril, etc. Sur toutes ces questions-là, être religieux ou être incrédule, sur toutes ces questions-là, ce que veut dire Machiavel, c'est pas qu'on a tous un avis précis, c'est que tout le monde a un avis. C'est qu'on est dans l'opinion par rapport à ça, et qu'on ne peut pas faire fi de cette question de l'opinion des gens sur le prince. Donc il y a une forme de démarche un peu phénoménologique de Machiavel, c'est-à-dire qu'il suspend tout jugement moral, à nouveau, pour examiner vraiment la vérité effective, c'est-à-dire la relation du prince à ses sujets, qui est une relation qui est teintée d'imaginaire, d'opinion, de mythe. Ce qui compte, c'est le prince tel qu'il apparaît à ses sujets. Ce n'est pas tel qu'il doit être. Ce qui compte, c'est de faire attention à comment est-ce qu'il apparaît à ses sujets. Et donc, les conseils de Machiavel, ici très généraux, après on va rentrer un peu plus dans le détail, mais c'est, premièrement, si possible, étant donné la vérité effective des choses qui est ce monde d'opinion, un, si possible, faire en sorte de conserver un bon renom, donc une bonne réputation. Donc la première idée, c'est attention à la réputation que vous avez, faites-y attention, parce que c'est, le monde est basé là-dessus, la politique est basée en partie là-dessus. Donc, en gros, il faut éviter de paraître aux yeux du peuple pour ce qu'il blâme. Donc si en général c'est mal vu d'être efféminé, ne le soyez surtout pas. Et donc, ce qui signifie que comme personne n'est parfait, eh bien, il faut cacher ses vices au peuple, en tout cas les vices qui feraient perdre l'État, les vices qui sont vraiment trop graves aux yeux du peuple. Donc première chose, essayez de conserver une bonne réputation aux yeux du peuple. Et deuxièmement, et c'est très important parce que ça vient vraiment nuancer le premier point de vue, c'est que si c'est impossible, c'est-à-dire si la situation l'impose pour conserver l'État, donc si pour conserver l'État, il faut faire autrement, il faut donc ne pas se conformer à ce qu'on attend de soi, à ce que le peuple attend, eh bien le prince alors doit s'adonner à ses vices, à ce qui est considéré comme des vices, donc sans réserve, sans craindre le mauvais renom. À ce moment-là, il faut y aller complètement pour Machiavel. Donc, si par exemple la cruauté est vue comme quelque chose d'un peu abominable aux yeux du peuple, la plupart du temps, il faut bien faire attention de ne pas se montrer cruel. Mais si pour une raison vraiment essentielle à la conservation de l'État, il faut être cruel, alors dans ce cas-là, il faut l'être tout à fait, de manière en tout cas très, très directe et pas hésitante, sûrement pas. Parce que ce qui paraît vertu peut provoquer la ruine, si on s'y conforme, et inversement, ce qui paraît vice peut provoquer sécurité et bien-être. Donc, pour faire bref sur ce que je viens de dire, il faut soigner l'opinion de la masse, mais ne pas à tout prix y sacrifier, si on risque d'y perdre l'État. Donc il y a quand même un but supérieur, si vous voulez, quand même, qui est de conserver l'État. Ce n'est pas un but moral en soi, ça, de dire ça. C'est juste une forme d'efficacité. C'est le critère de Machiavel, c'est de trouver comment ça marche, comment on conserve un État. Eh bien, pour conserver un État, il faut la plupart du temps soigner l'opinion, il faut aussi pouvoir y sacrifier. L'opinion, donc, est une donnée importante du politique. Si on la néglige, on court à sa perte. Mais l'opinion n'est pas non plus la science. Et seule la science peut vraiment comprendre la nécessité qu'il y a à certains moments, pour Machiavel, à ce qu'il appelle « entrer dans le mal ». Et ça, le peuple souvent ne le comprend pas bien, dit-il. Donc il y a parfois une nécessité d'entrer dans le mal pour une fin supérieure qui est la conservation de l'État, et moi j'ajouterais, en ligne de mire, le vivre libre, parce que ce n'est pas n'importe quel État. Je ne pense pas non plus que, enfin, si on s'appuie aussi sur les discours, peut-être pas dans Le Prince, mais si on s'appuie aussi sur les discours, on peut se dire que le but, malgré tout ultime, c'est d'arriver à une forme de république vivante et libre. Mais l'idée au départ, c'est que pour réformer un État, pour y arriver, il faut pouvoir entrer dans le mal. Et si on parvient à ce résultat, qui est finalement la conservation d'un État et même peut-être sa vivification, enfin en quelque chose d'intéressant pour tout le monde, eh bien si on parvient à ce résultat, la foule sera contente, elle oubliera les moyens parfois rudes qu'il a fallu employer pour y parvenir. Donc il y a cette idée-là chez Machiavel. Alors quelles sont les réponses originales de Machiavel aux questions habituelles liées à ces vertus qu'il faut avoir? Eh bien, donc là, ce sont un peu des exemples, mais c'est une première question, par exemple, vaut-il mieux être libéral ou parcimonieux? Donc ça, c'est comment il gère l'argent, hein. C'est une question d'argent aussi. La réponse habituelle, c'était, il faut être libéral, un prince, un bon prince, c'est un prince libéral. Et Machiavel va répondre que, justement, ça dépend quand. C'est pas du tout évident, ça dépend quand. Donc c'est histoire un peu des circonstances. Au début, pour un prince qui débute, il vaut mieux être économe, parce que ça évite de nuire au peuple, en dépensant tout l'argent public, par exemple. Donc, au début, il vaut mieux risquer d'être pris pour radin, et avec le temps, le peuple comprendra qu'il n'est pas spécialement radin, et on le dira libéral, surtout si, donc, avec le temps, il peut se montrer plus généreux, et en particulier, dit Machiavel, avec les butins. Ça, c'est un moment important, il faut pouvoir, là, être très libéral. Mais donc, ça dépend des moments, pas au début d'une, d'une monarchie, mais peut-être dans des moments de victoire où il y a un butin à partager. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir être économe à certains moments, en tout cas de faire attention à l'argent public, mais en même temps de ne jamais paraître rapace ou odieux avec le peuple. Il faut toujours éviter pour Machiavel d'être méprisé ou d'être haï par le peuple. Donc il y a un juste milieu un peu et sentir un peu le moment. Est-ce que c'est le moment d'être libéral ou est-ce que c'est le moment d'être plus économe ? Une autre question importante à l'époque qui se posait beaucoup, c'est est-ce qu'il vaut mieux être cruel ou faire preuve de pitié ? Faire preuve de pitié. Et une autre question qui allait avec, c'est faut-il être aimé ? Vaut-il mieux être aimé ou plutôt craint par les sujets ? Alors sur la première question qui était donc être cruel ou pitoyable, pitoyable le mot n'est pas bon, donc faire preuve de pitié. La réponse habituelle c'est il faut que le prince évidemment puisse faire preuve de pitié. Quand je dis la réponse habituelle, c'est plutôt celle donc des miroirs traditionnels. Et Machiavel va dire mais c'est vrai que c'est mieux d'être tenu, donc d'être vu comme quelqu'un qui peut manifester de la pitié. C'est vrai. Mais pourtant, la nécessité, à nouveau, cette nécessité qui est difficile à comprendre, mais qui fait partie justement du but qu'on recherche au moment où on agit politiquement, la nécessité impose souvent, pour conserver l'État donc, d'être cruel. Surtout dans les principautés nouvelles, donc surtout quand on débute. Donc ce que dit Machiavel, c'est que dans ces cas-là, il faut pouvoir être cruel si la nécessité le demande, et en même temps, juste après, pouvoir donner des exemples frappants de pitié. Donc à nouveau, vous voyez l'alternance entre les attitudes qui dépend un peu du moment et qui est une espèce de dosage habile. C'est ça l'espèce d'habileté du prince de Machiavel. Alors par rapport à être aimé ou craint, pour Machiavel, le prince, surtout le prince nouveau, qui est le prince qui l'intéresse, hein, celui qui pourrait arriver en Italie, celui qu'il souhaite, qui arrive en Italie et qui unifie l'Italie, ce prince nouveau, il ne doit pas être non plus tempéré, prudent, cherchant la tolérance à tout prix, etc. Là, Machiavel dit, je le cite, il est beaucoup plus sûr d'être craint que d'être aimé quand on doit manquer de l'un des deux. Donc à choisir, mieux vaut être craint qu'être aimé. Car on nuit moins, on a moins tendance à nuire à celui qu'on craint qu'à celui qu'on aime. Et donc le lien est plus fort quand il est maintenu par la peur du châtiment que peut-être par l'amour, d'après Machiavel. Seul petit bémol, c'est attention à nouveau de ne pas être haï, parce que ça c'est important, il ne faut pas nécessairement être aimé, mais il ne faut pas être haï. Et donc dans la cruauté, il faut aussi faire preuve de mesure. Il vaut mieux plutôt, dit Machiavel, quelques exécutions sur des particuliers qu'un désordre qui va nuire à la collectivité. Donc s'il faut des mesures franches de cruauté, c'est souvent vis-à-vis de particuliers. Ce n'est jamais quelque chose qui concernerait la collectivité. Machiavel dit, on peut tuer, ça s'oublie plus vite que prendre le bien d'autrui, par exemple, qui entraîne la haine. Donc à nouveau, il faut faire attention à ce qu'on fait et à ce qui va laisser une trace dans l'imaginaire et dans l'opinion des gens. Et pour Machiavel, parfois, éliminer un ennemi, par exemple, c'est plus efficace qu'être quelqu'un qui prend le bien d'autrui de manière régulière. Voilà, ce serait vraiment risqué d'être haï. Pareil avec les armées, donc il vaut mieux être craint qu'être aimé. Sinon, on risque de tomber dans une forme de licence, c'est-à-dire pour Machiavel, le fait qu'il n'y a plus d'obéissance au chef d'armée, par exemple. Machiavel dit encore, mieux vaut donc être craint qu'être aimé, car les hommes aiment à leur gré et craignent au gré du prince. Donc ce qui dépend du prince, c'est la crainte, c'est pas l'amour. Donc un prince sage va se fonder sur ce qui relève de lui-même, c'est-à-dire il va se faire craindre, et bon, il va éviter d'être haï. Encore un exemple de questions qui se posaient. Donc, par exemple, et ça c'est intéressant parce que ça touche à la religion, mais entre autres, pas uniquement, la question c'est faut-il garder sa foi ? Alors, ce n'est pas la foi au sens religieux, d'ailleurs je vous égare en disant ça, la religion va arriver dans ce point-là, mais ce n'est pas ça. C'est faut-il rester loyal, quoi ? Est-ce qu'il faut tenir sa parole ? Est-ce qu'il faut suivre ce à quoi on s'est engagé ? Alors, bien sûr, la réponse traditionnelle, c'est oui. Un bon prince, c'est quelqu'un voilà, qui tient sa parole, qui est droit, qui est dans une forme de droiture, de bonne foi, et qui, ça veut dire aussi qui croit ce qu'il dit, qui est vrai, quoi, qui est sincère. Il faut une forme de sincérité. Et Machiavel va dire, bah, être de bonne foi, tenir sa parole, d'ailleurs, être quelqu'un de fiable, de droit, etc., c'est très louable. Et c'est d'ailleurs ce qui devrait se faire selon l'opinion. Donc tout le monde est d'accord pour dire un bon prince, c'est quelqu'un qui est de bonne foi. Mais ça n'intéresse pas tellement Machiavel, le lieu commun, donc c'est ce que tout le monde pense qu'il faudrait faire. Pour Machiavel, et ça il insiste fort, il explique que les hommes qui sont rusés, on va voir ce que c'est la ruse, mais rusés et déloyaux, sont plus forts que les loyaux. Ça c'est une observation. Machiavel dit voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Qu'on le veuille ou non, qu'on trouve ça bien ou pas, c'est comme ça. Être déloyal, pouvoir trahir ce qu'on avait promis, pouvoir changer d'avis, pouvoir se retourner au dernier moment, totalement, oui, trahir des alliés, par exemple, etc., eh bien, c'est ça qui est en général plus efficace, en tout cas dans certains cas. Donc, une théorie de Machiavel qui est un peu en arrière-fond ici, c'est qu'il y a deux manières de combattre, au fond, avec les lois. Ça, c'est le propre de l'homme, hein, combattre avec les lois, c'est-à-dire combattre dans le sens instaurer un ordre par les lois. Mais ça peut aussi être, c'est la deuxième manière, avec la force, qui elle est propre aux animaux aussi, une manière d'imposer un ordre. Et souvent, les lois ne suffisent pas, et alors le recours à la force est absolument nécessaire. Donc c'est important pour Machiavel que le prince puisse faire l'homme et la bête, une forme de centaure ou quelque chose de... d'hybride, quoi. Pouvoir jouer de l'un comme de l'autre, des lois comme de la force. Et dans la bête, dans l'animal, dans la bête, il y aurait deux types d'animaux dont parle Machiavel, qui sont assez célèbres. C'est le lion, qui serait la force, vraiment, la force physique, y compris les armes, par exemple. Le serpent, non. Parce que monsieur me dit le serpent, mais je ne vois pas a priori tout de suite de serpent chez Machiavel. Le deuxième animal, c'est le renard. Et c'est le renard qui représente vraiment la ruse. Et chez Machiavel, il y a cette idée qu'il faut tenir les deux ensemble, donc ruse et force, le lion et le renard, en plus des lois, quoi, hein, qui est une autre manière de combattre. Mais dans la manière animale, il y a le lion et le renard à tenir ensemble, la force et la ruse. Et la ruse, qu'est-ce que c'est? Parce que ça a un rapport direct avec cette question de respecter, d'être de bonne foi, etc. Eh bien, la ruse, c'est justement, par exemple, voir quand... Il ne faut absolument pas observer sa parole, il ne faut pas respecter sa parole. Ceci dit, tout en colorant toujours ce manque de foi, de motifs légitimes. Donc il faut toujours viser à faire attention, à ne pas faire paraître ça au grand jour. Mais il faut pouvoir, c'est ça la ruse, voir quand il faut justement trahir ce qu'on avait éventuellement promis, etc. Il faut pouvoir dissimuler, ce serait ça le renard, c'est celui qui sait dissimuler, celui qui sait aussi simuler. Et Machiavel dit, mais ça marche très bien, parce qu'en fait, les hommes sont très simples. Le vulgaire, comme il dit, mais je pense que ça englobe vraiment presque tout le monde. Le vulgaire, donc, se fie à ce qui paraît et pas à ce qui est. Il dit, les hommes jugent plus par les yeux que par les mains. Ce qu'il veut dire, c'est par l'apparence que par la réalité de la chose. Il dit aussi, chacun voit ce que tu parais, donc au prince, hein, chacun voit ce que tu parais, peu perçoivent ce que tu es. Et donc le renard, c'est celui qui trompe les gens en dissimulant bien ses tromperies, qui parvient à ne pas montrer qu'il trompe. Être renard, c'est donner le change, c'est paraître avoir toutes les qualités. Et là, Machiavel, justement, évoque étonnamment, quasi pour la première fois, ou une des rares occurrences de la religion, c'est là. Il dit, par exemple, le prince doit paraître religieux, ça c'est important. Mais donc il doit paraître religieux. Mais pouvoir en réalité ne pas du tout l'être à certains moments, ne pas du tout suivre les valeurs et les principes religieux à d'autres moments. Donc ce qui est un peu frappant ici, un peu choquant et qui a choqué, quoi, c'est l'idée que la religion fasse partie de la ruse. En fait, la religion, ce n'est utile ici, enfin en tout cas ce n'est cité par Machiavel, que comme une arme, un instrument, dans cette façade qu'on donne face aux gens, quoi. Ça peut être utile pour l'opinion du peuple de paraître religieux. Machiavel n'en dit pas spécialement plus, il dit juste qu'il faut pouvoir transgresser les valeurs religieuses s'il le faut. Donc je le cite, il dit « Aussi faut-il qu'il ait un esprit disposé à tourner selon que les vents de la fortune et la variation des choses le lui commandent, et ne pas s'écarter du bien s'il le peut, mais savoir entrer dans le mal s'il le faut. » Donc cette idée de ruse, c'est aussi cette idée de s'adapter, de pouvoir saisir à ce moment-là l'attitude à prendre, peu importe qu'on ait promis autre chose avant, et peu importe aussi d'ailleurs que le peuple n'apprécie pas ce type d'attitude. Ce qu'il faudra, c'est veiller à donner une apparence de bienséance. Au départ, si c'est possible, donner quand même une forme d'apparence correcte. Et Machiavel conclut en disant « Dans les actions de tous les hommes, et surtout des princes où il n'y a pas de tribunal à qui recourir, on considère la fin. Qu'un prince donc fasse en sorte de vaincre et de maintenir l'État, les moyens seront toujours jugés honorables et loués de chacun, car le vulgaire se trouve toujours pris par les apparences et par l'issue de la chose. Et dans le monde, il n'y a que le vulgaire, et le petit nombre ne compte pas quand la foule a où s'appuyer. » Donc il n'y a pas vraiment de vrai en soi pour Machiavel, le vrai de la multitude est pris en compte dans cette vérité effective de la chose politique. Il faut tenir compte de cette conception des hommes, et en même temps savoir qu'à certains moments, il faut pouvoir entrer dans le mal, même si ça contredit apparemment l'opinion des gens, parce qu'on récupérera quand même une opinion positive si on parvient à... ces fins qui, dans ce cas-ci, sont la conservation de l'État, maintenir l'État. Dernier point dans ces questions toujours de relations avec les alliés, tout dernier point, assez bref. L'idée, c'est que, pour Machiavel, il faut donc éviter la haine et le mépris, parce qu'il mène à la ruine. Et comment est-ce qu'on peut éviter ça ? Eh bien, en évitant certains renoms, qui sont donc certaines réputations très négatives, par exemple, être rapace, usurpateur, ça mène à la haine, être changeant, léger, pusillanime, efféminé, ça mène au mépris. Donc ça, pour Machiavel, voilà, ça, c'est des choses à éviter. Mais c'est plus important peut-être, une chose essentielle pour Machiavel, c'est de conserver la faveur populaire. Pour Machiavel, il faut toujours pouvoir s'appuyer sur le peuple. Et c'est pour lui le meilleur rempart contre les conspirations, par exemple, qu'il pourrait y avoir contre le prince. Donc, pour éviter les conspirations qui viennent de la haine, du mépris, eh bien, il faut que le prince doit satisfaire le peuple et en même temps ne pas réduire les grands au désespoir. Donc, les grands, c'est plutôt les riches. Il oppose deux humeurs, comme il appelle ça, mais qui sont on ne peut pas vraiment dire de classe sociale, mais en tout cas de... On pourrait le traduire comme ça pour faire bref, en tout cas qui sont les grands et le peuple. Et Machiavel dit qu'on a toujours intérêt à se mettre du côté du peuple, mais en même temps à ne pas totalement réduire les grands au désespoir. Donc ici aussi, il y a un point de vue de Machiavel qui est contraire à ce qui se disait d'habitude, hein, qui était plutôt, le prince n'était pas nécessairement favorable au peuple. Tandis qu'ici, il y a vraiment cette idée d'être favorable au peuple. Alors, dans le dernier point, le quatrième point quatrième partie, si vous voulez, du prince, il y a cette notion de fortune et vertu. Et ça, il faut un petit mot d'explication peut-être là-dessus. Je vais venir après à la notion de fortune et de vertu, mais... La première question que se pose Machiavel, c'est pourquoi est-ce que les princes d'Italie, les seigneurs de Naples, de Milan, pourquoi est-ce qu'ils ont perdu leurs états ? Alors, ce qu'il explique, c'est que, ça correspond à ce qu'il vient de dire avant, c'est qu'ils avaient de mauvaises armes, donc des armes mercenaires pour la plupart, ce qui était une erreur catastrophique, et en plus, ils étaient hostiles au peuple, et ils prenaient souvent le parti plutôt des grands. Et pour Machiavel... Ces seigneurs des grandes cités d'Italie ne doivent pas accuser le sort, donc dire on ne pouvait pas faire autrement, etc., mais vraiment leur paresse. Ils n'ont pas changé de comportement, ils n'ont pas su s'adapter quand l'adversité est venue, quand ils ont eu n'importe quel obstacle ou difficulté devant eux. Et donc ils ont chaque fois échoué. Et pour Machiavel, les seules bonnes défenses, ce sont celles qui défendent justement, qui dépendent de soi-même, du mérite du prince et pas de la fortune. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire de fortune qui revient beaucoup ? Eh bien, c'est l'objet du chapitre 25 où il s'agit de voir ce que peut la fortune dans les choses humaines et comment est-ce qu'on peut lui résister. Donc, la fortune, c'est le hasard, enfin, le changement, le mouvement des choses, etc. Alors, quelle était l'opinion un peu commune à l'époque de Machiavel sur cette question de la fortune ? C'était au fond un peu associé à la providence divine aussi, et donc considéré comme quelque chose sur quoi on n'avait aucune prise. Pas de remède par rapport à ça. Donc on subissait un peu la fortune. Voilà, c'était à nouveau le mauvais sort, quoi. Dieu l'a voulu, ou c'est une fatalité en tout cas. Et donc il ne faut pas trop s'échiner à vouloir gouverner les choses à tout prix. Voilà, il y a des moments où on est dépassé, et c'est comme ça. Et Machiavel va vraiment s'opposer à cette espèce de fatalisme en disant, dans ce chapitre, il y a le début du chapitre, il exprime une idée assez générale comme ça, dont on se demande un peu, ceci dit, d'où sort cette théorie, mais on sent bien son idée derrière, c'est de dire, au fond, il y aurait 50% de fortune et 50% de libre arbitre. Donc, pour lui, il faut rétablir une part de libre arbitre. En tout cas, il faut dire, mais non, on peut avoir une action sur le cours des choses, sur les circonstances. La fortune, dit Machiavel, pour nous faire comprendre, il prend une métaphore, ce serait un peu comme un fleuve impétueux, un fleuve prêt à déborder. Le libre arbitre, ce serait comme faire des digues par temps calme. Donc au moment où le fleuve n'est pas du tout prêt à déborder, ce serait préparer des digues. Ce qui signifie donc anticiper pour canaliser. Ça, c'est la première idée de Machiavel, c'est que la fortune, ce n'est pas quelque chose qui déboule comme ça du jour au lendemain. On peut anticiper sur des événements qui vont arriver, et donc on peut essayer de canaliser les choses par avance. Donc anticiper, canaliser. Or, pour lui, l'Italie, par exemple, est ce qu'il appelle sans levée et sans digue. Donc c'est un pays qui est ouvert à tout vent. N'importe quel envahisseur peut intervenir. Maintenant, rien n'est prévu, rien n'est préparé. Et puis, il parle un peu plus précisément de la fortune. Là, c'est une théorie assez générale. Et puis, il rentre dans quelque chose d'un peu plus particulier. Il dit « Est heureux celui dont la façon de procéder répond au caractère du temps. » Donc, « Est heureux celui dont la façon de procéder répond au caractère du temps. » Donc, celui qui, en gros, a un tempérament, un caractère qui est particulièrement bien adapté aux événements qui lui arrivent. Mais Machiavel dit, comme les temps changent et que les comportements pas, en général, c'est-à-dire que chacun tient assez fort à sa nature, ne parvient pas facilement à changer, à s'adapter, mais est plutôt toujours dans les mêmes types de réflexes, toujours le même type de caractéristiques et de comportements, eh bien, puisque donc les temps changent et que les comportements pas, eh bien, on ne reste pas longtemps heureux. Il y a toujours un moment où ça ne va plus. Il prend des exemples un peu célèbres en disant, voilà, je crois que c'est Jules II, lui, il a pu être d'un tempérament extrêmement circonspect, tempérant, plutôt calme, etc. Et ça lui a réussi, si je ne me trompe, sur cet exemple-là, excusez-moi, je ne suis peut-être pas tout à fait sûr, mais voilà. En tout cas, peu importe, l'idée, c'est que ça lui a réussi parce qu'il a vécu assez brièvement et qu'au fond, à cette époque-là, dans son histoire, à ce moment-là, ça convenait bien d'être comme ça. Mais pour peu qu'il y ait eu d'autres événements, que les temps aient changé, il ne se serait pas adapté plus qu'un autre et ça n'aurait pas fonctionné. Donc ce qu'il dit là, c'est un point de vue un peu négatif. Au fond, c'est un peu il contrebalance un peu ce qu'il vient de dire avec l'idée qu'on a un libre arbitre. C'est que bon, on a du mal à changer, on a du mal à se changer. On a du mal à s'adapter et à avoir l'attitude à prendre et à prendre la bonne attitude au bon moment. Donc on ne peut pas dire dans l'absolu que tel comportement vaut mieux qu'un autre. Par exemple, être plus ou moins violent ou plus ou moins habile, plus ou moins patient ou plus ou moins impatient, etc. Ça dépend du moment, des circonstances. Et là je le cite, « Si l'on changeait de nature avec les temps, la fortune ne changerait pas. » C'est-à-dire on serait toujours heureux. Hein, donc dans ce sens-là, si on parvenait à s'adapter, on serait toujours heureux. Mais donc aucun homme ne parvient à s'adapter totalement au temps. Voilà. Donc, voilà, c'est pas tout. Donc ce qu'il dit là, principalement, c'est que ce qui est difficile, c'est que les hommes sont obstinés, restent dans une même attitude, alors que la fortune, elle, est variable, que les temps changent et qu'il faut parfois pouvoir essayer de s'y accorder et qu'on ne le fait pas facilement, en tout cas. d'où le malheur des hommes. Mais il ajoute quand même tout à la fin, c'est un peu en trois temps hein, ce chapitre-là, donc il y a l'idée, un, si nous avons quand même du libre arbitre, deux, oui mais on n'arrive quand même pas facilement à s'adapter, et trois, justement, l'homme qui fait preuve de virtu, donc non pas vraiment de vertu, mais de virtu, V-I-R-T-U, quoi, vraiment en italien, cette notion de virtu, c'est précisément celui qui parvient avec la fortune, à avoir une attitude extrêmement, il dit impétueux, mais c'est aussi une attitude qu'on pourrait dire hardie, audacieuse, pleine d'ardeur, de jeunesse, et qui a cette capacité précisément, là c'est un peu, c'est ce passage un petit peu choquant de Machiavel, enfin choquant avec, en tout cas, vu de notre époque, je n'ai plus le passage exact, mais où il dit que la fortune est femme, à nouveau une métaphore, hein, la fortune est femme, et pour se la soumettre, il faut la battre et la rudoyer. Je ne cautionne pas du tout, mais l'idée, peu importe ici, mais l'idée de la métaphore, c'est vraiment qu'il faut avoir une attitude extrêmement, saisir les occasions, rentrer dans le temps et sentir l'attitude, adopter une attitude adaptée à la circonstance, pouvoir surfer sur les événements et voilà, sentir tout ça. Donc c'est à la fois s'adapter, être hardi, avoir une attitude aventureuse, opportuniste au sens en tout cas de saisir l'occasion, sentir le moment et pouvoir en effet peut-être se retourner, s'adapter vraiment en changeant de forme autant que possible pour atteindre ses fins. Ça ne veut pas dire pour son intérêt propre particulier nécessairement. C'est toujours dans cette idée de conserver l'État et de permettre une vraie vie politique. Donc adopter diverses qualités, non pas comme des valeurs en soi, mais comme des moyens qui sont nécessaires à une fin qui n'est pas morale, mais qui est politique, la conquête, la conservation. Donc la virtu, c'est quelque chose d'extra-moral, c'est pas vraiment, ça relève pas vraiment de la morale. Donc la virtu, c'est un certain rapport à la fortune, c'est à la fois, on a vu, anticiper pour canaliser, mais c'est aussi improviser, s'adapter, créer, inventer, oser, être dans quelque chose comme ça, et saisir les occasions que tend la fortune. Alors, tout dernier point, c'est vraiment la fin, c'est l'exhortation à prendre l'Italie, à délivrer et à la délivrer des barbares. C'est-à-dire, donc, ça c'est l'idée que j'ai déjà un peu énoncée de Machiavel, qui est qu'au fond, ce qui manque en Italie pour qu'il y ait une vie politique plus intéressante et pour qu'on sorte des guerres simplement, c'est une unification. Machiavel se fait un peu prophète dans le dernier chapitre, le chapitre 26, et il dit que, oui, de manière un peu comme ça visionnaire, le temps est propice à un prince nouveau en Italie. C'est le moment. Il était nécessaire, d'une certaine manière, que l'Italie soit dans un état un peu pitoyable où elle est actuellement, enfin au moment où Machiavel écrit, pour justement peut-être révéler la valeur d'un esprit italien. L'Italie, d'après Machiavel, attend celui qui va mettre vraiment fin à ses blessures. Donc là, il s'adresse à Laurent de Médicis et il dit « La rédemption de l'Italie, c'est à vous, vraiment, je ne le cite pas clairement, c'est une paraphrase, la rédemption, c'est à vous, Laurent, qu'il faut, c'est à vous de la faire, la rédemption de l'Italie. » Et évidemment, avec mon enseignement, avec l'enseignement de Machiavel. La situation est favorable, c'est le moment, c'est une occasion. Il faut faire de nouvelles lois, de nouvelles institutions pour réveiller la vertu militaire et aussi la vertu civique. La matière est bonne, le peuple italien, il manque un chef qui va mettre une forme dans cette matière. Et donc, imitez les grands exemples, armez-vous, prenez vos armes propres, allez les chercher dans le peuple italien et commandez-les vous-même. Il faut se défendre des étrangers par la valeur italienne. Donc, ordonner une nouvelle infanterie italienne sur base des défauts vus chez les autres. Donc, ça, c'est là que Machiavel intervient. Hein. Voilà un peu son étude et voilà comment il faut ordonner une nouvelle infanterie pour parvenir à la grandeur, la réputation d'un prince nouveau. Donc, c'est l'occasion idéale.
Et Machiavel rajoute à ça tout à la fin que ce nouveau prince, s'il se présentait, serait reçu avec amour, avec soif de vengeance, avec une foi obstinée, avec piété, avec les larmes du peuple. Tout le monde le suivrait, puisque la domination barbare a été tellement forte et tellement difficile, a tellement fait souffrir que c'est le moment. Courage, espérance, voilà, réveiller le rang, la vaillance du peuple italien. Voilà, c'est... vraiment très résumé, hein, excusez-moi de passer vite comme ça sur un texte aussi magnifique, voilà, il faut vraiment aller y voir plus précisément. Et donc juste vraiment pour conclure, donc l'originalité principale de Machiavel et ce qui lui a valu tellement de critiques, c'est d'avoir libéré le politique du moral, du théologique, aussi du droit naturel, de cette idée qu'il y avait un droit qui devait dicter le politique. Donc, c'est la constitution, finalement, d'une sphère autonome. La politique comme sphère autonome, qui a droit à une science particulière, qui n'est pas régie par des principes extra-politiques, moraux, religieux, etc. Et peut-être juste pour ajouter, comme ça, deux, trois mots, simplement deux traits qui paraissent assez essentiels et peut-être typiques, enfin, ça c'est à voir, je ne connais pas assez la Renaissance, peut-être typiques de la Renaissance. Ce serait cette attention à la variation, au chaos, au hasard, à la contingence, donc cet intérêt pour tout ce qui bouge, tout ce qui change, contrairement à ce qui se faisait toujours en philosophie, d'établir des fondements, des choses qui sont extrêmement stables, qui dictent le devoir-être, etc. Ici, on est dans une pensée tout autre qui fait face à ce chaos, qui réfléchit à des situations extrêmement concrètes et diverses et qui peut vraiment affronter la variation, le chaos. Et deuxième point, mais qui est tout à fait lié, je crois, c'est cette idée que, on est dans un monde avec... Et donc les choses qui bougent tout le temps, qui sont extrêmement instables, il y a des guerres, il y a des luttes, mais il y a aussi des moments d'instabilité constante dans le politique, et donc il n'y a pas de règle unique, etc. On ne peut pas dire qu'il y a un bien en soi, ça c'est le premier point. Mais il ne faut pas pour autant tomber dans quelque chose de pessimiste. Il y a une réaction justement chez Machiavel à cette situation-là, et qui est de dire, mais on va faire l'histoire nous-mêmes, on va agir sur l'histoire. On n'est plus justement, c'est ce rapport à la fortune, on n'est plus complètement soumis à ce qui arrive, etc. Mais peut-être que précisément ce que cette situation demande de nous, c'est d'agir sur l'histoire. Quoi. C'est la possibilité de devenir plus acteur du politique et de l'histoire en général. Voilà, j'ai déjà terminé. Merci beaucoup pour votre attention.
Je remercie beaucoup Anne-Herla et je vous invite immédiatement à réagir. J'imagine que Machiavel ne devrait pas vous laisser indifférent.
Voilà, merci pour cet exposé. Moi, je voudrais, dans la continuité de l'exposé, aller un peu plus loin. Machiavel a écrit Le Prince un peu sur la fin de sa vie, il n'a pas pu en profiter beaucoup. À votre avis, des dirigeants qui ont suivi se sont directement inspirés du prince? Est-ce qu'il y en a qui s'en sont revendiqués? Ou bien c'était juste un passage, un essai qui n'a pas eu plus d'importance que le plaisir de l'écrire et de le lire?
À vrai dire, je connais pas très bien l'histoire vraiment de la postérité de ce texte. Enfin, il faudrait aller voir, c'est une question très précise, c'est de voir quel roi s'en serait revendiqué. Je crois qu'on avait, de toute façon, enfin, on a eu beaucoup de mal à se revendiquer de Machiavel. Hein. Ça n'a jamais été vraiment quelque chose de simple, donc ça je ne pense pas. Je crois que ceux qui ont énormément lu Machiavel et qui en ont vraiment tiré des choses importantes, c'est des gens comme Hobbes, Spinoza, Rousseau, enfin tous les philosophes qui ont suivi. Maintenant, pour ce qui est vraiment de l'histoire, je dois bien reconnaître que je connais moins et que je sais moins quel rapport on a eu. Je sais qu'en tout cas, on s'est beaucoup servi de Machiavel pour dire « je ne suis pas un prince comme le prince machiavélien ». Voilà, peut-être.
Si tu permets, oui, juste une remarque à ce niveau-là, il y a en tout cas chez Machiavel une espèce de de premier traité de communication à destination du politique. Et aujourd'hui, en tout cas, même si on ne se revendique pas de Machiavel et qu'on ne va pas le chercher là-dedans, il me semble que le rôle de la communication prend de plus en plus de rôle en politique.
Ce serait une influence. Oui.
Madame, je vous remercie pour votre exposé. Alors, j'ai une petite série de questions, mais je vais vous les poser toutes en même temps. Oui. La première est la dédicace du prince. Je crois que la dédicace du prince a entraîné pas mal de discussions. Parce que Laurent le Magnifique, c'est très bien, mais Laurent le Magnifique n'a jamais été un réunificateur, un unificateur. Et on pense que, en fait, Machiavel aurait voulu dédicacer son œuvre à César Borgia, qui lui était un unificateur, à sa façon, je suis tout à fait d'accord, ou alors à Jean des Bandes Noires, qui est mort un an avant lui, et qui lui était un unificateur de l'Italie. Alors ça, je ne sais pas si ça fait partie des questions que se posent les historiens, ou est-ce que c'est de l'historiette, ça n'a pas tellement d'importance, mais enfin, je voulais quand même vous poser la question. Alors, la seconde question que je voulais vous poser, c'est que c'est peut-être, Machiavel est certainement peut-être le plus grand homme qui ait connu l'Italie, mais ce qu'on pourrait lui reprocher à sa lecture, c'est qu'il a été très peu visionnaire. Comme vous l'avez dit très souvent dans votre conférence, il a vécu une époque absolument extraordinaire. Il a dit au prince ce qu'il devait faire, mais il n'a jamais dit au prince ce qui risquait de lui arriver. Par exemple, il n'a jamais parlé, dans ce que j'ai lu de Machiavel, je n'ai jamais entendu parler de la prise de Rome, par exemple. Or, la Sainte Ligue qui a été signée en 1526, il devait imaginer que ça allait avoir des conséquences épouvantables. Il n'a jamais parlé de la présence des Ottomans aux portes de l'Europe, par exemple, qui était, à l'époque de Machiavel, à Budapest. Donc, ce que je lui reproche, moi, il n'a jamais parlé de l'art de la Renaissance. Il n'y a aucune référence à l'art de la Renaissance, qui était une époque quand même tout à fait extraordinaire de créativité. Donc, ce que je lui reproche, moi, si je peux me permettre le moindre reproche à Machiavel, c'est d'avoir écrit au prince, de dire au prince ce qu'il devait faire, mais qu'il n'a pas prévenu des dangers qu'il courait. Du moins, les dangers extérieurs, c'est ça ce que je veux dire. Et alors, la toute dernière question, au sujet de l'art de la guerre, est-ce que ça m'encouragerait à lire Clausewitz ou pas? Parce que je reconnais que l'art de la guerre, c'est assez barbare à lire, mais c'est quand même intéressant. Et alors, il y a la fameuse œuvre de Clausewitz, où on retrouve également des formules comme celles qu'on donne à Machiavel. On dit, la meilleure défense, c'est l'attaque, qui veut la paix prépare la guerre, etc. Ça, c'est du Clausewitz. Alors, je vous demandais si ça présentait un intérêt, après Machiavel, de lire Clausewitz. Je vous remercie.
Oui, je pense que ça présente un intérêt. Moi, je ne connais pas bien Clausewitz. Ce n'est pas des questions autour de la guerre, c'est des questions que je connais vraiment très mal, donc je ne vais pas du tout rentrer là-dedans, mais je pense qu'il y a des influences et que ça doit être très intéressant à lire en rapport. Sur ce que Machiavel n'a pas fait, enfin, où je ne vous rejoins pas, c'est sur le fait qu'il n'aurait pas prévenu contre des dangers. Je pense qu'il fait énormément ça. Peut-être pas, évidemment, des dangers précis. Il n'a pas été, justement, visionnaire au point de... voilà, les choses dont vous parlez, moi-même, je ne connais pas bien ces éléments d'histoire. Je ne suis pas du tout historienne. Donc, je ne peux pas dire exactement ça. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il n'ait pas anticipé certains dangers, etc., à travers cette théorie, entre autres même, que je viens d'exposer. Je ne pense pas. Maintenant, qu'il ne parle pas, par exemple, d'art, ceci dit, il faudrait voir. Ça ne me semble même pas certain. Il y a une tellement grande littérature de Machiavel, je ne suis pas sûre qu'il n'évoque pas l'art à travers... Enfin, lui-même faisait du théâtre, de la poésie, etc. Maintenant, il n'était pas historien de l'art, ça c'est certain. Donc, voilà, je pense que c'est un point de vue, en effet, en tout cas celui que j'ai exposé ici, dans les deux grandes œuvres, c'est un point de vue très politique et qui ne peut pas embrasser tout non plus, mais c'est vrai. Donc, de ce point de vue-là, je reconnais qu'il n'évoque pas certaines choses. Il est très critique vis-à-vis du pouvoir de Rome. Je ne sais pas maintenant ce qu'il aurait dit plus précisément. Et à nouveau, je ne connais pas toute l'œuvre de Machiavel, mais elle est énorme. Et il a certainement été évoqué des pans d'histoire que moi, je ne connais pas. Pour Laurent, oui, vous dites que... Je crois que c'était obligatoire de faire, entre guillemets, un peu allégeance au souverain en place. Donc, je veux dire, la dédicace à Laurent... Médici, qui n'est pas Laurent le Magnifique du siècle précédent, mais qui est quand même, il l'appelle quand même, la dédicace, c'est quand même hein, au magnifique Laurent de Médici. mais ce n'est pas Laurent le Magnifique au sens propre. Mais donc, cette dédicace-là, je suis d'accord pour dire que rien n'empêche de transposer, bien sûr, tous les conseils, non pas à Laurent, mais à quelqu'un d'autre, comme Borgia, qui fait partie un peu des héros machiavéliens ou des figures, peut-être pas à 100%, mais qui incarnent en partie cette virtu, quoi. Il le cite énormément comme exemple et c'est sûr que c'est une inspiration pour Machiavel et que ça pourrait l'être. L'inverse pourrait être vrai également. Mais...
La volonté de conserver l'État à tout prix, ça préfigure la notion qui viendra un peu après de raison d'État, hein, mm-hmm. la ragione di Stato, qui vient, je crois, quelques décennies plus tard,
oui, oui.
à mon sens. Oui.
Oui, Botero, oui, c'est, oui, Botero, quelques c'est dizaines ça. D'années plus tard.
Alors, l'art de la guerre, comment ce personnage qui n'a pas fait la guerre lui-même, je ne pense pas
C'est-à-dire qu'il il a été...
Il n'a pas été soldat, je dirais, entre
oui,
guillemets.
Soldat, non, non, d'accord, non, pas non. au sens propre, conseiller pour,
oui,
pour
conseiller,
les armées.
Mais il organise les soldats en vue de bataille,
oui.
il les prépare de tout ça, et cérébral finalement. Il n'a jamais vécu un champ de bataille, je pense.
Je connais mal sa vie pour être tout à fait sûre, mais je pense qu'il a en effet été certainement cérébral, mais en même temps tout à fait actif. Par exemple, par rapport aux armées, il a véritablement influencé par ses conseils Soderini, qui a donc oui. levé une armée, c'est ça. Oui. Mais être vraiment sur le terrain, même l'art de la guerre, moi je reconnais que c'est un ouvrage que je n'ai pas lu, c'est très stratégique, avec en effet oui. des formations, enfin
très géométriques.
C'est ça, mais qui évoque sûrement d'autres traités de la guerre.
Exactement à ce propos-là, oui. Jean de Bantenoir l'a mis au défi de commander des troupes. Et il y a d'ailleurs, Machiavel a tenté l'expérience, les militaires se sont emmêlés les pieds, et puis Jean de Bantenoir, en quelques mots, a fait remettre les gens dans le rang. Donc voilà bien, c'est peut-être une réponse. Alors je voudrais moi poser une autre question. Est-ce que, par exemple, Atatürk, comme le bourgeois gentilhomme, aurait-il... a suivi un peu les conseils de Machiavel.
Oh, ça, je ne sais pas vous répondre là-dessus. Il faudrait que je connaisse mieux l'histoire. Je suis désolée, beaucoup de questions d'histoire et c'est très intéressant. Mais si quelqu'un veut répondre à ça, moi, je suis tout à fait preneuse de l'entendre. Mais je veux bien dire que je ne sais pas répondre à ça, par exemple. Je ne connais pas assez l'histoire d'Atatürk.
Parce que c'est justement dans la prémisse, il faut un seul homme au départ.
Oui, oui.
Et je crois que c'est bien le cas. D'Atatürk.
C'est ça, évidemment, c'est le cas souvent. Mais...
Ouais.
Bon, comme vous l'avez reconnu, il est difficile de parler de la postérité de Machiavel, mais on peut peut-être parler des gens qui ont adopté, des dirigeants qui ont adopté Machiavel comme, enfin, le prince comme livre de chevet.
Vous pensez à qui ?
Mais il y a Mussolini, et il y a aussi Gramsci. Mmh. Mais, donc ça montre un peu l'ambiguïté.
Oui, certainement, mais tout à fait. C'est un texte très ambigu, ça, oui. Je suis tout à fait d'accord.
Et il n'y a pas que ça comme ambiguïté.
Il n'y a pas que ça.
C'est Machiavel, son républicanisme, mais en même temps, son éloge du despote qui est là pour la nécessité, hein, c'est évident, hein, qui est un peu le dictateur à la romaine. C'est-à-dire l'homme providentiel dans les circonstances exceptionnelles qui fait qu'on doit faire fi des principes républicains pour sauver la République.
Oui, oui.
Tout ça est très ambigu. Quoi. Et peut-être même l'attitude qu'il avait vis-à-vis du livre, parce qu'est-ce qu'il le prenait vraiment au sérieux ?
Cet ouvrage ?
Oui.
Mais
je ne serais pas le premier étonné de voir toute la glose qui s'est faite autour de
ça. Je ne crois pas, par contre. Je pense qu'il avait beaucoup d'ambition et de prétention en écrivant ce livre. Je ne pense pas qu'il pensait faire quelque chose comme ça. Par contre, l'ambiguïté que vous soulignez, elle est évidente parce que les lectures de Machiavel ont été dans des sens extrêmement différents. Donc c'est sûr qu'il y a une ambiguïté. On a beaucoup dit que Machiavel exposait... enfin, les travers du prince et de la tyrannie pour justement que le peuple puisse s'en défendre. Ça a été une des lectures, entre autres par
je pense même Rousseau, enfin, il y a en tout cas plusieurs auteurs qui, et plusieurs commentateurs simplement, qui ont pensé que c'est ça que faisait Machiavel. Peut-être qu'on a pu le prendre aussi comme une défense de vraiment la tyrannie à tout craint, ou en tout cas une forme d'autoritarisme total. Peut-être une forme, je ne sais pas si Carl Schmitt, par exemple, évoque ça, mais le décisionnisme de Carl Schmitt, donc cette idée qu'il faut pouvoir se défaire de toute loi à certains moments pour imposer des choses, je le dis très très vite là, mais il y a beaucoup de pensées, je veux dire, qui pourraient se revendiquer de Machiavel. Moi, ici, je crois que j'en ai fait une lecture qui est assez dirigée, enfin, qui est une interprétation, qui n'est pas la vérité de Machiavel, pas nécessairement en tout cas, mais qui est un peu moi, comment je le lis en tout cas, qui est cette idée de faire correspondre quand même les discours et le prince, et donc de comprendre le prince comme une action de réformation, de rénovation de l'État dans des moments de corruption énorme, et qui alors explique que dans des cas particuliers, il y ait ce recours au prince. Enfin, c'est ça que j'ai essayé d'expliquer pour montrer qu'il pouvait y avoir une cohérence entre ces œuvres-là, que ce n'était pas nécessairement ambigu et partant dans tous les sens, cette œuvre-là. Elle peut se tenir aussi. Il y a moyen de voir une cohérence. Mais voilà, ça reste que c'est ouvert.
Mais je ne sais pas si Atatürk a lu Machiavel, mais ce qui est certain, c'est que Le Prince a été traduit en arabe et largement diffusé dans le monde arabe au XXe siècle.
Ah oui, merci.
On pourrait peut-être aussi parler de Sun Tzu, qui est l'art de la guerre, mais là, c'est un peu plus la conquête. Mais il dit quelque part qu'il faut être un mauvais général si on doit utiliser les armes. On doit subjuguer l'adversaire par l'intérieur, il dit. Donc, ça a par quelques côtés une ressemblance.
Oui, une ressemblance et une différence. Donc, puisque oui, Machiavel insiste beaucoup sur justement les armes, et là, ce serait plus. La ruse est aussi peut-être quelque chose de plus typiquement chinois. Enfin, je ne sais pas si je me trompe, parce que je ne connais pas très bien ça non plus, mais j'ai entendu une conférence de un monsieur qui s'appelle Julien et qui oppose justement l'efficacité plus machiavélienne et une pensée de l'efficacité à l'européenne, à une pensée de l'efficacité à la chinoise avec des traits très saillants qui les opposent vraiment très fort. Et donc, ce que vous dites m'évoque simplement ça. Sans pouvoir développer plus, parce que je connais mal à nouveau.
En fait, vous me direz si je me trompe, mais j'ai envie de dire, comme Jean-François Quint, que tout change parce que rien ne change. On a là un bel exemple de réal politique et de com' bien faite, finalement. De réal politique, c'est de la réal politique.
Oui, ça influence cette aussi.
D'accord. Et de la bonne communication, comme vous disiez, madame. Donc, finalement, on est dans des schémas identiques tout le temps, pendant toute l'histoire, et lui, il a peut-être bien écrit.
Je ne crois pas qu'on est dans des schémas identiques tout le temps. Ça, je ne sais pas, parce que pour moi, c'est trop large.
J'ai l'impression que ça me
donne. Oui. Juste simplement dire que pour moi, c'est large. J'ai du mal à. Enfin, là, c'est un point de vue trop énorme de dire est-ce que finalement tout revient tout le temps. J'en sais rien. Simplement dire que Machiavel, en tout cas, à son époque, ce type de réalisme n'est pas du tout ce qu'on entend tout le temps. Vraiment pas. Il est vraiment en rupture avec à la fois la Renaissance et même en partie avec la raison d'État dont on parlait, qui viendra après. C'est quand même une pensée qui n'est... En tout cas, ce réalisme est quelque chose d'assez neuf ou qui tranche avec la moralité ambiante au XVIe. Ça, je crois quand même pas qu'on peut dire que tout est pareil tout le temps.
Il me semble qu'aujourd'hui aussi, l'idée d'éthique est tout le temps présente dans la politique, que la politique doit se faire selon l'éthique. Les politiciens réclament ça, alors que Machiavel, lui, oppose et prend vraiment des distances.
Oui.